Et j'ai remercié tous les collègues qui m'ont précédé, qui ont donné tout cet après-midi ce cadre, le rapport et mathématiques et sciences naturelles très, très riche.
J'espère arriver à la fin, même à toucher quelques aspects de la biologie dans une réflexion qui a un caractère particulièrement philosophique pour quelqu'un comme moi qui a une formation de mathématicien, qui a travaillé surtout dans les mathématiques de l'informatique. Et je ne crois pas que j'aurai le temps, j'anticipe seulement que je trouve l'exposé des ATEM particulièrement et riche, surtout dans la problématique, c'est-à-dire il est clair que nous trouvons face à des situations où il n'y a pas seulement, pour le dire d'une façon synthétique, et des changements de phase dans une dynamique d'un processus, mais il y a un changement d'espace de phase, des observables qui changent. Peut-être que c'est un des grands défis dans les rapports des maths et à la biologie. C'est un défi constitutif, c'est-à-dire il faut voir les mathématiques comme quelque chose de dynamique. Elles ne sont pas déjà là, elles se constituent avec l'objet d'étude. C'est une formation des sens qui va au même temps que les niveaux phénoménal auxquels elles s'appliquent. Et pour cela, elles sont raisonnablement efficaces, dans le sens qu'elles collent, comme la surface, le cortex d'un arbre colle à l'arbre. C'est une évidence. Comme notre langage, il est très efficace. Il n'est pas absolument efficace, puisque certaines choses, on n'arrive pas à le dire. Alors le langage se modifie, s'enrichit. De même pour les maths. Il faut donc avoir une vision dynamique que j'essaierai maintenant d'introduire à travers le débat fondationnel qui a été riche de philosophie en mathématiques et qui a produit deux branches de mathématiques, au moins deux, qui a marqué la construction même des mathématiques au XXe siècle, en commençant ce débat au milieu du XIXe siècle. Et par cela, j'essaierai de montrer comme ça a donné des paradigmes, qu'enracinés sur une philosophie de la connaissance, ont proposé des philosophies de la nature, de facto. Dans un cas, certains mathématiciens étaient tout à fait conscients qu'ils proposaient une philosophie de la nature. Dans l'autre cas, la philosophie de la nature, malheureusement, était implicite, ce qui a fait des dégâts absolument remarquables du point de vue, philosophique, malgré l'excellence des mathématiques impliquées. Commençons ce débat avec un petit survol historique. Je suis obligé d'avoir ça dans la main. Je vous rappelle les mots très importants avec lesquels termine la thèse de Riemann, la thèse d'habilitation, chose très audacieuse. Car Riemann a l'audace de dire que la lumière ne va pas droit, le corps rigide n'est peut-être pas rigide. Et c'est là pour donner un sens à un grand enjeu de l'époque, qui est évidemment resté. Comment ça se fait qu'il y ait des phénomènes gravitationnels instantanés? Son idée, c'est qu'il y a un rapport, une corrélation entre les forces cohésives entre les corps et la structure de l'espace, la structure métrique. Hermann Weyl, un des grands mathématiciens de la relativité, dira que ça, c'était de la divination. En fait, la relativité, c'est dans ces sources-là. Clifford, un peu plus tard, dira tout ce qui se passe en physique, ce sont des variations continues de la courbure de l'espace. Nous sommes en train de voir une tentative mathématique qui aboutira à une très grande physique où les mathématiques organisent l'espace en particulier pour rendre intelligibles certains phénomènes qui ne le sont pas trop, qui ne le sont pas. Les bouches, vous savez très bien, en relativité. Mais c'était très dur, très difficile, puisque qu'est-ce qui se passe? S'écroule la certitude euclidienne. Il n'y a plus ces rapports directs entre intuition de l'espace, espace sensible, espace physique. Pour Euclide, c'était clair, l'espace sensible et physique sont la même chose. Du point de vue technique, cela veut dire que quand on fait la géométrie ici, autour de nous, et on la transporte partout dans l'espace, c'est la même, en particulier par homothétie. Klein fera observer que le groupe des automorphismes de la géométrie euclidienne est le seul fermé par homothétie. Donc on a un théorème sur un triangle, et c'est le même sur les étoiles, sur les atomes. Mais ceci ne marche pas. Et le tournant est donc radical, ça casse entièrement ce qui était le fondement des mathématiques, la géométrie. La certitude, les raisonnements étaient more geometrico. Même dans la algébrisation de la géométrie d'Euclide, la certitude, le regard, l'intuition comme regard reste dans l'espace. À ce moment, tout s'écroule. La réaction est forte, même avec un paradigme aussi fort que possible par Frege. Nous sommes en train de faire face à un délire, une situation de délire pour ce qui regarde l'intuition quand on pense à la situation actuelle de la géométrie. C'est une réaction directe à Riemann. Et dit non, alors pour le fondement des mathématiques, il faut se tourner à l'arithmétique. C'est l'arithmétique qui gouverne tout ce qui est dénombrable, donc tous les domaines,
tout ce qui est actuel, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est pensable. Puisqu'on doit abandonner l'absolu de la géométrie, elle n'est plus absolue, hein, on se tourne vers un autre absolu, ou plutôt l'arithmétique est proposée comme un absolu. Les lois de l'arithmétique sont des lois de la pensée absolue. L'induction est une loi logique. Hein. C'est un paradigme très riche. Frege invente un traitement rigoureux de la quantification. La logique mathématique démarre. Elle continue avec une variante, mais un créel aussi sur l'arithmétique. Les programmes d'Hilbert. Le programme, en tant que programme formaliste, commence avec un très grand livre des fondements des mathématiques, c'est les fondements de la géométrie. Qu'est-ce qu'il fait Hilbert? Il a le même problème que Frege. On ne comprend rien si on pense à l'intuition des approches géométriques. Lui, il est un très grand mathématicien qui travaille en physique mathématique, il sait bien qu'est-ce que c'est la géométrie riemannienne, mais il est insatisfait du point de vue fondationnel et il pense que la solution est dans l'abandon radical de la signification dans l'espace des axiomatiques géométriques. Donc, il formalise entièrement les systèmes de différentes géométries de l'époque, il donne des interprétations relatives l'une de l'autre, et enfin, encode le tout, en passant par la géométrie euclidienne, en arithmétique. C'est pour ça que l'année suivante, il dira, le problème fondationnel clé, c'est de démontrer la cohérence de l'arithmétique. Son immersion de toutes les géométries en arithmétique est conservative, c'est-à-dire s'il y avait une incohérence dans les axiomes d'une des géométries, ça se transmettrait de l'arithmétique. Donc, si on démontre la cohérence arithmétique, c'est fait. On a un fondement aussi de la géométrie. Donc, recentrage sur l'arithmétique. Évidemment, la preuve doit être comment ? Doit être certaine. Et puisqu'il y a la certitude de l'arithmétique, il faut que la preuve soit une preuve arithmétique. Voilà donc cette bifurcation qui se fait. D'un côté, il y a des préoccupations que je vais petit à petit vous montrer chez les géomètres, de continuer un rapport à travers l'espace avec la connaissance physique tout d'abord, mais pas seulement physique, même l'action du vivant. Les géomètres donc insisteront sur le fait qu'il y a une signification inhérente à la structuration des mathématiques. De l'autre côté, la naissance d'une autre discipline, logique mathématique, la théorie de la preuve, la calculabilité et les machines arithmétiques qui sont là, qui en sont les fils directs. Évidemment, il faut établir un nouveau dialogue, car cette brisure était radicale. Certains protagonistes arrivent aux insultes hein, à l'époque. Et la théorie catégorique, je trouve, est un outil fondamental pour unifier des approches qui se sont contraposées avec force au cours du XXe siècle. Essayons de détailler un peu quelles sont les racines philosophiques, quel est ce départage du point de vue philosophique et les conséquences mathématiques. Ben, tout d'abord, il y a clairement une science de l'absolu, qui est celle de Euclide, Descartes, Newton, Laplace. Il y a un espace et un temps absolu. Et il y a une connaissance qui est absolue en tant que complète, décidable. C'est ça, j'y vais revenir, la grande hypothèse de Laplace. On a une description du monde. Si on connaît avec exactitude, on peut décider le futur, le passé. Et en fait, il sait très bien qu'on ne connaît pas avec exactitude, que la mesure physique est toujours en intervalle. Mais il pense qu'une petite perturbation aura une petite conséquence. C'est ça au cœur de la conjecture de la décidabilité ou prédictibilité de Laplace. Quand on a un système déterministe, donc explicitement déterminé par un système d'équations, s'il y a une petite perturbation, sauf des cas critiques, mais ils sont rares, ils sont des points isolés, il y aura une petite conséquence. Ceci engendre le calcul des perturbations, un des grands moments de l'analyse du XIXe siècle, mais basé sur cette hypothèse, qu'il y a une intrinsèque décidabilité des systèmes. Ça va de pair donc avec les absolus de Newton-Descartes. C'est ça ce qui reprend Frege. Il veut des absolus à cause du délire riemannien, puisque le concept de nombre, il dit explicitement, est un concept absolu. L'arithmétique de Peano est catégorique, pas dans le sens philosophique à vrai dire, mais technique, dans le sens qu'elle a un seul modèle. Elle coïncide avec la théorie des nombres. C'est un absolu. Il n'y a pas dans la constitution de ce concept un processus dynamique. Ils sont déjà là. De même, il y a un absolu derrière le mythe de l'autocohérence de l'arithmétique, puisque vous voyez, une fois qu'on démontre par voie arithmétique la cohérence de l'arithmétique, elle se tient toute seule. Elle se tient hors du monde en se tirant sur ses propres ficelles, des chaussures, se soulève et c'est fait. Il suffit que ce monde de la cohérence autodonné de l'arithmétique soit le lieu dans lequel on encode le tout. Et Hilbert avait, avec une technicité extraordinaire, encodé la géométrie, toutes les variétés riemanniennes en arithmétique. Donc, il y a la continuité qui vient de cette tradition de la certitude absolue. Hein, ces auteurs parlent explicitement dans le débat fondationnel. Il dit, il y a le problème, cette crise fondationnelle qui sont les géométries euclidiennes, il faut répondre en acquérant par un autre voie la certitude absolue. La théorie des ensembles en est le paradigme. C'est un univers donné pour toujours, un univers absolu. On pourra ajouter s'il est là quelques axiomes, mais il est là. Il y a toutes les mathématiques passées, présentes, futures. Attitude avec des résultats techniques d'une très grande importance, il faut dire, les plus importants, des résultats négatifs. Qu'est-ce qui se passe d'autre part, hein, l'autre filière, j'ai parlé de la filière de l'arithmétique. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces attitudes qui deviennent explicites avec Riemann et Poincaré? Vous voyez, le problème crucial, c'est l'intelligibilité spatiale de certains phénomènes physiques à travers une géométrie intrinsèque des espaces courbes ou des systèmes dynamiques. Dans le cas des systèmes d'espaces courbes, on sait bien, c'est la géométrie intrinsèque de Gauss-Riemann. Dans le cas des systèmes dynamiques, je dirais l'analyse de la complexité géométrique. Il peut y avoir une très grande simplicité du système d'équations. Maintenant, on connaît même des systèmes unidimensionnels, d'équations non linéaires unidimensionnelles qui sont objectivement très simples, mais qui engendrent une énorme complexité géométrique, c'est-à-dire des attracteurs, par exemple, d'une très grande richesse et complexité. C'est la structure spatiale de l'évolution qui compte. Hein, l'espace de phase, les portraits des phases en tant que celui-là ayant une signification de complexité. C'est la structure de l'espace qui donne signification à la physique et à son tour, la structure mathématique de l'espace est signifiante puisqu'elle réfère à une structure physique. Et il y a aussi une autre chose en commun entre ces deux approches qui font partie de cette géométrisation de la physique et qui date de l'époque, les rapports entre local et global. Chez Riemann, il y a cette distinction cruciale, justement due au fait que les géométries, sauf le cas critique, quand la courbure égale zéro, et ne sont pas fermés par homothétie. Il y a une structure globale de l'espace avec une notion de dimension qui est topologique et il y a une structure locale, métrique. De même, chez Poincaré, on peut individuer une distinction analogue, encore une fois, un lieu d'intelligibilité. Il y a une structure globale de la détermination, par exemple par un système d'équations, qui donne la stabilité structurelle, et je prends le mot de Thom, mais il y a une continuité entre les deux, absolument remarquable. Mais il y a la structure locale de la variation, c'est-à-dire le système d'équations donne le régime global, l'évolution globale du système, mais entre en jeu dans la détermination des trajectoires spécifiques, la variation, c'est-à-dire le phénomène local. C'est ça la grande variété. Cette variation, elle a une importance causale cruciale, ce qui n'était pas le cas chez Laplace. Comme je vous ai dit, le tournant est justement le fait que pour Laplace, petite perturbation, petite conséquence, et avec Poincaré, on comprend, petite perturbation peut engendrer grande conséquence. Donc, la structure locale de la variation, même en dessous du niveau de la mesure possible, de l'intervalle de la mesure possible, peut avoir des conséquences radicales dans l'évolution d'un système. Voilà, c'est donc des idées qui rendent intelligibles des phénomènes physiques grâce à une géométrisation de la physique elle-même. D'autre part, on peut dire même qu'il y avait une physicalisation de la géométrie, sans doute. Mais c'est un de ces grands moments où la physique et les mathématiques se constituent en même temps. Et je dirais même, il y a une tentative de fondation des deux disciplines en même temps, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une question technique. Chez les deux auteurs, c'est clair, il y a un enjeu fondationnel. Pour Riemann, qui malheureusement, mourant à 40 ans, il ne peut pas continuer son programme, la question philosophique des fondements se pose. En plus, son habilitation était en philosophie, sous la direction de Gauss, mais c'était en philosophie formellement. Quelle est son idée? Puisqu'on renonce aux certitudes euclidiennes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir quelles sont les régularités qu'on met à la base de la construction mathématique. C'est-à-dire, on choisit certaines régularités de l'espace. Il pense à la connectivité, à l'isotropie, celles qui donneront les variétés spatiales. On les transforme en hypothèses, et là commence le travail du mathématicien qui est constitutif des structures. C'est-à-dire, pour Riemann, ce qui est évident comme clé des fondements des mathématiques, c'est l'analyse du parcours constitutif des structures qui partent de certaines régularités que nous isolons du monde. Et dit, l'approche axiomatique est absolument nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Ça sera repris très bien par Hermann Weyl, qui explique, c'est évident qu'on doit travailler dans des théories de cohérence, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas un fondement suffisant des mathématiques qui sont signifiantes, organisent le monde, c'est corrèle à la structuration du monde. Poincaré aussi a une attitude originale, qui est la sienne, mais que je voudrais dire encore une interprétation naturaliste des problèmes de fondement. On dit parfois qu'il est un conventionnaliste. Oui, mais il est dans un sens très fort et très solide. Quand il dit que les axiomes sont des définitions déguisées et qu'elles sont commodes, c'est le mot qu'il utilise, immédiatement il explique qu'ils sont commodes pour nous, êtres vivants dans le monde. Par exemple, qu'est-ce que c'est la notion de distance? Elle dérive dans l'action dans l'espace. Évaluer la distance d'un objet, c'est évaluer l'action et le temps qu'il faut pour atteindre l'objet. Donc, il voit dans un fait biologique, je dirais, la racine d'une conceptualisation qui va suivre. C'est à partir de là qu'il insiste sur comme notion basique, fondante des mathématiques, qui sont au fondement des mathématiques, la notion de voisinage, la topologie, la notion de corrélation, et on commence à parler et de plus en plus des invariants, c'était d'autre part déjà Riemann-Klein, comme ces régularités qu'on met en évidence dans le choix fondationnel. Et il se contrapose à Hilbert qui rythmétise la preuve en disant non, la preuve n'est pas une suite de nombres, la preuve a une architecture. Une phrase très belle qui est heureusement aujourd'hui revitalisée dans une branche importante des théories de la preuve et de Jean-Yves Girard. Qui est vraiment contre, dans la polémique très forte qu'il eut avec Hilbert, contre les codages arithmétiques. Dans les deux cas, je dirais qu'il y a cette sensibilité des mathématiques comme un processus constituant. Ce sont des concepts qui s'ajoutent à d'autres dans un rapport riche, qui ne sont pas déjà là, dans un rapport riche avec les sciences naturelles, organisatives, dans ce cas-là, de la physique, bien évidemment. Il y a eu même, dans le débat, des conséquences intéressantes. Pour reprendre l'idée d'Hilbert de autofonder l'arithmétique pour l'isoler du monde et enraciner là-dedans les maths, et Hilbert, en 1902-3, pense d'avoir démontré la cohérence de l'arithmétique d'une façon relativement simple, par induction. On fait une induction sur la structure de la preuve, on démontre que s'il y avait une contradiction, elle serait déjà dans les axiomes. Donc, c'est une preuve par induction. Et Poincaré a un grand éclat de rire et lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Vous démontrez la cohérence de l'arithmétique en utilisant l'induction, qui est l'axiome plus important de l'arithmétique. Et Hilbert, pendant une quinzaine d'années, arrête de raisonner des fondements et fait des excellents travaux en physique mathématique, absolument formidables, vont contribuer à la relativité. Mais en plus, par exemple, il a un regard absolument original sur les problèmes de l'hypothèse du continu. Zermelo, en travaillant dans un cadre hilbertien, formalise la théorie des ensembles pour sortir des paradoxes qu'il y avait à l'époque, mais surtout pour démontrer un grand problème ouvert, l'hypothèse du continu, auquel Cantor avait travaillé 18 ans sans succès. Et il veut que la théorie formelle, hilbertienne, arithmétisable, finitaire, etc., puisse, par sa machine, sa déduction formelle et potentiellement mécanisable, démontrer, sans faire référence au sens, l'hypothèse du continu, vraie ou fausse. Poincaré lui dit, mais comment pouvez-vous croire qu'une propriété structurelle des nombres réels à la Cantor-Dedekind puisse être démontrée par une théorie que vous dites, par principe, n'est pas avoir une signification structurelle. Et c'est formidable, puisque 40 ans après, 60 ans après, les deux résultats qui donneront l'indépendance seront justement basés sur une construction d'une structure spécifique du continu réel à la Gödel ou à la Cohen, 65, où l'hypothèse dans un cas est validée, dans l'autre elle n'est pas validée. Et Enrico, c'est un autre géomètre qui réagit avec force au formalisme. Il a même un regard très critique du point de vue philosophique. Et c'est de lui que j'ai pris l'idée de mon titre. Quand il voit ce débat entre les deux formes d'absolu, les maths qui sont déjà là, le platonisme plus ou moins naïf, et le formalisme de l'autre côté, il dit qu'ils sont en train de tomber dans une nouvelle scolastique. Vous comprenez que ce n'est vraiment pas l'attitude de ces grands dont je parlais, de ces grands géomètres qui pensent à la constitution de concepts à partir de notre présence, possiblement vivante, comme dit Poincaré, dans le monde. Hermann Weyl est l'autre qu'il faut citer. Il est l'élève, Hilbert dit qu'il est son meilleur élève, qui réagit avec force au programme d'Hilbert, tout d'abord en disant que cette histoire d'une potentielle mécanisabilité des mathématiques les banalise, hein, et au point de conjecturer en 18 l'incomplétude de l'arithmétique, ce qui sera le théorème de Gödel de 31. Il est fait d'une façon absolument remarquable et malheureusement pas assez souligné. Il y a une intuition derrière, je ne peux pas détailler maintenant, mais c'est incroyable comme il met le doigt sur le point crucial de l'arithmétisation. Il est aussi insatisfait de l'approche ensembliste au continu. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment la force d'un grand mathématicien qui est grand philosophe. Puisqu'en 18, il écrit un livre, Matière, espace, temps, qui sera repris à plusieurs reprises suite au débat avec Einstein jusqu'en 24, qui est le premier grand livre des mathématiques de la relativité, où ce qu'il fait, c'est justement un traitement unitaire de l'espace et le temps par les outils du continu. Et pendant qu'il fait ça, il écrit un livre philosophique où il dit, écoutez, moi je le fais, mais je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas bon d'unifier l'espace et le temps. Tout d'abord, puisque dans le temps, il n'y a pas de point. On ne peut pas isoler le point d'une façon analytique. Les présents temporels et la mémoire du passé, l'attente du futur. Il y a au moins un segment qui a une solidité, une solidarité, qui n'est pas saisie par les mathématiques. Et toutefois, j'utilise, je fais, il faudrait faire mieux. Hein. Ça, c'est ce regard critique qu'il fait sortir du piège de sa propre force mathématique. Et puis, son grand livre, qui est un peu pour moi vraiment un paradigme de réflexion, c'est-à-dire le fait de dire que le fondement des mathématiques doit être à l'intérieur d'une philosophie de la nature, hein, puisque c'est dans le rapport au phénomène naturel que nous proposons la construction mathématique. Et ceci, il le fait au moment où il invente la théorie des jauges, donc l'analyse des changements de système de référence, et il commence à proposer ce qui sera un de ses grands paradigmes, le rôle des symétries en physique et mathématiques. Dans les deux cas, ces symétries sont constitutives de la compréhension. On peut comprendre, et lui, sa référence préférée, c'est le théorème de Noether. Le théorème de Noether nous dit que des phénomènes de conservation sont des symétries. Par exemple, la conservation de l'énergie, c'est une symétrie spatio-temporelle. C'est-à-dire, c'est vraiment une question d'intelligibilité. Grâce à quelque chose de simple, une symétrie, on comprend un phénomène physique crucial. Et pour lui, les symétries sont constitutives des maths aussi. On arrive à la conceptualisation des nombres entiers, on y met les nombres négatifs par symétrie, ou si vous voulez, par une propriété de fermeture, qui est aussi une symétrie. Donc, ce qu'il insiste, c'est la nécessité d'un fondement commun, conjoint, il ne pense qu'à la physique, enfin, c'est son expérience, basé sur une formation commune de sens, évidemment, où, encore une fois, les sens sont donnés par l'effet d'isoler certains invariants et certaines transformations qui préservent les invariants. Évidemment, et ça se lègne radicalement, des absolus de l'espace et du temps, des absolus ensemblistes, et commence vraiment une vision philosophique de ce qui est la contribution la plus importante de la relativité, cette histoire de les constructions relativisantes. Il a des très belles pages où il insiste que la connaissance objective commence quand on explicite le système des références et la mesure. Hein. C'est-à-dire qu'il faut expliciter les formes d'accès, et il pense à l'espace et au temps, les formes d'accès à l'espace et le temps, choisir le système des références, la mesure, si vous voulez, la métrique et la courbure, alors commence l'objectivité. Quand le sujet sort de l'absolu égocentré newtonien ou arithmétique ou ensembliste et se pose dehors en relativisant la construction par rapport au monde. Et avec la théorie des jauges, il explique comment passer d'un système de référence à l'autre en conservant quoi, les symétries qui comptent. Je dois dire que ces deux approches qui divergent ont trouvé petit à petit un point de rencontre, même si la philosophie autour n'est pas assez développée, je trouve. Et c'est certainement la théorie de catégorie. Pourquoi ? Ben, puisque c'est un cas typique des constructions relativisantes. Catégories mathématiques, ce sont des structures qu'on ajoute. Ce sont des invariants et des morphismes, donc des transformations qui préservent ce qui compte, qui s'ajoutent à un univers où l'unité n'est pas déjà là, comme dans le cadre absolu de la théorie des ensembles, où l'unité dérive chaque fois de fonteurs d'interprétation réciproque, c'est-à-dire on explique comment passer d'une catégorie à l'autre grâce à des transformations qui s'appellent transformations naturelles. On compare ces fonteurs d'interprétation. Donc il y a cette dynamique de construction du sens, possiblement enracinée sur des formes d'organisation de phénomènes naturels, qui est propre à la construction mathématique et qui est fondante, qui est un fondement en même temps de la construction mathématique, quand on explicite le parcours constitutif. Quand on dit « ceci sont les régularités que je vois dans le monde, les symétries », on regarde les transformations qui préservent et on procède. Évidemment, le motto qu'on peut avoir de ce genre de réflexion qui commence à se faire, mais je ne trouve pas assez, est le fait que c'est un enracinement des mathématiques et d'une autre action cognitive, hein, dans un sens plus vaste, qui commence dans un processus phylogénétique, hein, que nous partageons avec certains animaux, l'appréciation. Évidemment, la conceptualisation est la nôtre, mais l'appréciation de certaines invariants spatio-temporelles, certainement, nous la partageons avec pas mal d'animaux. C'est un raisonnement pour Poincaré et Weyl dans la physique, et Poincaré et Henriques aussi disent des choses sur la cognition humaine, mais ils n'avaient pas les outils, donc ça reste assez élémentaire, c'est incomplet. Weyl insiste, les mathématiques ne sont pas isolées dans le monde, hein. Ne sont pas dans un vide. Ceci n'empêche que l'autre filière, hein, celle de l'absolu arithmétisant, a des succès absolument énormes. Pourquoi ? Puisque avec l'idée de formaliser cette histoire de la déduction effective arithmétisable, dans les années 30, on invente la théorie de la calculabilité, la théorie de la preuve moderne, la théorie de la calculabilité, et comment cette culture très efficace et cette pratique des digits, hein, de l'information digitale sur des structures discrètes. L'idée, c'est de coder le monde en arithmétique. En fait, l'idée commence grâce au résultat de Gödel. Hein, c'est lui qui invente la notion de gödelisation, le codage arithmétique de la métamathématique. C'était ça son but, mais en fait, qu'on peut étendre par Turing au codage du monde. Et le problème qu'il y a, que ceci va vraiment contre l'attitude des géomètres dont je parlais, puisqu'on n'est pas intéressé à voir quels sont les invariants préservés par ce codage. Qu'est-ce que ce codage garde, qu'est-ce qu'il ne garde pas, hein. Ce n'est pas qu'on n'est pas intéressé. Simplement, tout est cassé, hein. C'est comme le codage du plan réel sur la droite réelle, vous faites une bijection, et c'est absolument, c'est une bijection ensembliste, mais tout est perdu, puisque sur le plan, dans l'espace de trois dimensions, ce qui compte, c'est la notion de voisinage, si possible, du métrique. Et le codage à la Cantor, disons, le casse, puisqu'il est essentiellement non continu. Mais c'est formidable, puisque grâce à ça, on invente des machines arithmétiques qui travaillent dans un univers totalement disconnecté, qui n'a pas de structure, mais fonctionne. Le problème philosophique est grave, puisqu'évidemment, il y a une philosophie de l'arithmétique qui se superpose à une philosophie de la nature. Quelles sont les limites pour le fondement? Ben, vous comprenez, les mathématiques organisent les phénomènes physiques, tout d'abord. Elles sont normatives. Du point de vue cognitif, elles imposent une structure. Ce sont des structures qui organisent, en fait, et ne sont pas des ensembles de points non organisés. Et l'autre limite, qui est vraiment en contraste avec ce qu'on avait appris de la géométisation de la physique, c'est que dans une structure discrète, dans une base digitale, la mesure, l'accès à la donnée est exacte et absolue. Hein? Une adresse en mémoire est exacte. Il est absolu dans une machine séquentielle. Essayons de résumer un instant. Donc, cette bifurcation, les deux branches étant très productives, les deux. Donc, le rôle de l'arithmétique, qui est cette façon de s'en sortir du drame de la chute de la géométrie non euclidienne, face à ce délire qui sont les géométries non euclidiennes, et aussi, c'est une façon de s'en sortir de cette situation de l'incertitude introduite par l'imprédictibilité des systèmes déterministes à la Poincaré. Ça aussi, ça a été énorme, très bouleversant, au point que pour différentes raisons, certainement pour l'hégémonie du linéaire, mais aussi pour parce que ça donne de l'angoisse, hein, disons qu'un système déterministe ait des propriétés d'essentielle indécidabilité ou imprédictibilité, si vous pensez que le travail, sauf quelques exceptions, reprend seulement dans les années 60, c'est un cas à voir de près de l'histoire où, je crois, c'est une philosophie qui, essentiellement, fait résistance à l'appréciation de la richesse proposée dans le système dynamique. Mais il y a eu quand même une retombée, hein, par la proposition de ces univers absolus et ces lois absolues de l'arithmétique, c'est justement des machines arithmétiques et absolues, hein, qui utilisent des notions absolument élémentaires et à leur intérieur, d'une façon décidable, passent d'un fond en pas à l'autre. Ce qui est formidable, c'est que Turing, qui est l'inventeur de la première machine, dans les réflexions de 1950, le reconnaît. Il dit explicitement que sa machine est une machine laplacienne. Il le dit deux fois dans cet article qui est très cité, personne ne le reprend, c'était patent. Il dit, étant donné une situation, je connais la situation de la mémoire parfaitement, mon programme, je connais l'évolution. La situation est en train de changer puisque les ingénieurs, il y a 30 ans, mais en fait d'une façon massive seulement il y a 10 ans, ont commencé à distribuer ces machines dans l'espace physique. Et alors, l'espace et le temps physique, les vrais, arrivent et le système concurrent pose à l'informatique des problèmes très sérieux, puisque tout d'un coup, on a mélangé ces machines qui étaient conçues hors du monde et on les a mélangées à l'espace-temps physique. Et c'est la théorie de la calculabilité est en train de changer avec une très grande lenteur, parce que nous, et moi-même, nous arrivons avec un très grand retard. Les machines digitales séquentielles ont été inventées suite aux mathématiques qui étaient déjà là, c'est-à-dire la calculabilité des années 30. Maintenant, la situation s'est renversée. Nous nous trouvons face à des machines qu'il faut rattraper avec des maths qu'on n'a pas encore. Ben alors, c'est fini, peut-être. Ça, je répète. Je mets une dernière qui était un peu au cœur du débat, c'est que ce que vous... pas le temps de dire, c'est qu'on peut comprendre ces départages du point de vue un peu plus technique en considérant qu'un des aspects, c'est la théorie du continu sous-jacent à la géométrisation, aux géométrisations de la physique et des fondements. Et le fait est que si on regarde de près ce qui se passe dans l'évolution même des systèmes qu'on vient de voir, il faut faire une distinction fine qui est implicite chez Turing entre imitation et modèle. Il y a d'un côté la modélisation physico-mathématique, dont on a vu des applications absolument remarquables à la biologie, qui est une tentative de saisir, au moins certainement en physique, des principes constitutifs d'un processus. C'est-à-dire, on dit, le processus est organisé selon certaines équations, certaines lois, l'évolution d'un système que j'ai décrit ainsi. La structure causale sera donnée par cette détermination formelle et par les symétries, brisures de symétrie internes au système d'équations éventuellement. Quand on passe à la digitalisation, on change le régime causal, puisque la perturbation en dessous de l'arrondi, on ne la voit pas, et puisque à chaque pas, l'arrondi est lui-même sa propre perturbation propre à la machine. Une fois digitalisé sur la machine, nous n'avons pas un modèle, il faudrait changer de nom, Turing le suggérait, on a une imitation, c'est-à-dire quelque chose qui donne des informations qualitatives absolument formidables, mais qui suit son propre régime causal. Les conséquences, évidemment, il faut les assumer, puisque aujourd'hui, la modélisation computationnelle est essentielle à la science. On ne peut pas faire science sans modélisation computationnelle, mais il faut être conscient qu'il faut mieux saisir ce qui se passe dans la machine du point de vue, maintenant je n'ai pas le temps de continuer, des symétries, des brisures de symétrie qui diffèrent de façon essentielle de ce qu'on peut représenter à travers les maths du continu. OK.
Voilà, on remercie Giuseppe Longo de nous avoir guidé entre le charybde formaliste et le sita platonicien. Quand même, s'il pouvait y avoir une réaction, mais... Oui, pardon.
Est-ce que, en quel sens précise... Vous parlez de ce caractère absolu de théorie d'ensemble. Parce que, par exemple, ce système axiomatique de Samuel Frankel, ce n'est pas catégorique. Oui.
Ce n'est pas
ce n'est pas catégorique, en sens de... Oui. C'est quoi le sens précis de ces caractères absolus?
Ben, dans le sens qu'ils se proposent comme une axiomatique pour l'éternité. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura des extensions à faire, mais disons, le cadre formel ou même la sémantique entendue standard se présente comme celui de la stabilité, de l'unité des mathématiques. L'unité atteinte à travers ces cadres définitifs. Dans l'unité de catégorie, cette unité est chaque fois reconstruite hein, par des rapports fonctoriels, chacune ayant sa propre galaxie signifiante, son topos avec sa logique. Ce sens-là.
Encore une.
Très bien.
Seulement une petite commentaire sur la distinction que vous avez faite entre les deux programmes. Je suis fondamentalement d'accord. C'est vraiment il y a eu une bifurcation des conséquences dramatiques pour le reste de la philosophie en général. Mais bon, vous avez mis là où je serais peut-être pas tout à fait d'accord, c'est de mettre Frege et Hilbert dans le même sac. Parce que... Bon, bien sûr, les deux cherchent ce genre d'absolu, mais justement, Frege n'était pas pour l'absolu de l'arithmétique et n'était pas du tout pour un formalisme, disons, sans sémantique. Et bon, il a été oublié, disons, l'évolution allait plutôt du côté de Hilbert, c'est vrai, mais c'est-à-dire, c'est plutôt une remarque historique. Frege voulait un absolu vraiment avec signification. C'est pour lui la vérité, que les lois de logique devaient refléter la vérité et pas seulement un jeu de signes discrets. Alors, il n'aimait pas du tout le formalisme hilbertien.
Absolument, au point que dans les années 20, pour réagir à Hilbert, il sert à un fondement de géométrie.
Ça, oui.
Mais en revenant seulement à la géométrie euclidienne, comme si rien ne s'était passé. Hein. Non, mais je les ai mis ensemble, tant qu'ils se contraposaient encore pire qu'entre Hilbert et Poincaré, justement pour ça. Et la signification est au cœur de la logique frégienne. Et ce qu'ils ont en commun, c'est mon interprétation d'une recherche des certitudes absolues. L'une substantialiste, essentialiste, l'autre formelle, la cohérence.
Il revient maintenant à Thierry Paul de nous accompagner dans le dernier segment de cette droite réelle.